Allons au fait par Régis Debray. L'histoire mise à nu.
L'histoire des idées et ses injustices. La fabrique de l'histoire des idées opérant depuis l'aube des temps, sous des contraintes parfaitement repérables, qui veut s'y faire une place dans cette histoire se doit de les respecter. Mais telles sont ces fourches caudines qu'elle laisse souvent dehors les plus remarquables des producteurs d'idées. Je fais appel à témoins et mon grand témoin sera le philosophe contemporain François Dagonier, 1924-2015. S'il est vrai que l'humanité se construit de siècle en siècle sur le socle de ce qui dure, eh bien il est humain de se demander qu'est-ce qui va bien pouvoir rester à l'avenir de tout ce qui nous file aujourd'hui sous le nez. Enfin, pour le dire en termes un peu plus châtiés, quelle part des flux est appelée à faire stock ? Quelle part des flux d'aujourd'hui est appelée à faire stock plus tard ? Nous savons tous qu'il se fera un tri parmi tout ce qui résonne et scintille sur les présentoirs de relais ou les panneaux d'écho. Et on est curieux de savoir ce qui, dans 50, 100 ou 200 ans d'ici, va s'extraire des armoires et des disques durs. Et si il en restera quelque chose. Puisque tout fait trace et se garde à l'ère numérique. Archivez, archivez, dit Pierre Nora, il en restera toujours quelque chose. Oui, puisque tout fait trace, quelles traces resteront de ce que nous disons, pensons, déclamons dans les manuels scolaires, les encyclopédies, les centenaires et les engueulades parisiennes de 2116. Le déchiffrement de l'énigme humaine, c'est une chaîne millénaire et sans fin. C'est une chaîne de questions, sans réponse définitive, et il y a tant de maillons pris d'un sommeil de plomb. Notre monde intellectuel, il a moins le soin de sa survie que ses prédécesseurs. Pourquoi ? Parce que chaque instant peut désormais combler nos vides et nous faire juger plus ou moins oiseux, académiques ou vaniteux le souci de postérité, un mot qui fait un peu sourire aujourd'hui. Mais enfin, un médiologue, il ne peut pas ne pas l'avoir à la bouche, ce mot. Son affaire, c'est la transmission, et il ne fait que son métier en cherchant dans son environnement artistique ou intellectuel ce qui sera ou non susceptible de se transporter d'une génération à une autre, et en l'occurrence, de notre génération aux suivantes. Transmettre, je vous rappelle, ce n'est pas communiquer, c'est faire qu'une information traverse non pas l'espace, mais le temps. Alors on peut toujours là-devant hausser les épaules, après nous le déluge. Et puis, comment anticiper les errances, les erreurs du futur? Ce dont l'avenir fera mémoire, ça ne se programme pas. La notoriété, d'accord, elle a ses recettes. La postérité, elle a ses chances. Et il n'y a pas de plan média pour sortir de sa tombe. Et l'habit vert lui-même n'a rien d'un ticket d'entrée dans l'immortalité, je veux dire dans le Larousse. À croire même que le bicorne est un risque certain et augmente plutôt l'incertitude. Oui, il y a des recettes, et pour qu'un lanceur d'idées devienne la coqueluche du mois ou de l'année, il faut et il suffit qu'il aille deux ou trois fois à la télé en prime time. Et quiconque va ferrailler chez Rouquier un samedi soir, c'est d'avance qu'il vendra dans la semaine qui suit entre 15 et 30 000 exemplaires de son dernier chef-d'œuvre. C'est mécanique. Tous les attachés de presse savent cela. Soit. Et après, qu'est-ce qui se passe ? À vouloir vivre avec son temps, on meurt avec son époque, disait Stendhal. Stendhal qui lui-même est né un demi-siècle après la mort d'Henri Bell. Je parle de Stendhal l'écrivain. Cela dit, s'il suffisait de faire l'ermite ou le bougon pour franchir la porte des salles de classe et devenir de ce fait un classique, puisqu'un classique, c'est quelqu'un qu'on enseigne en classe. Si cela suffisait, ça saurait depuis le temps. Et puis, à quoi bon peaufiner son ouvrage ou astiquer sa statue si celui qui fait une œuvre ne sait jamais l'œuvre qu'il fait, ne sait jamais l'œuvre qu'il aura faite. Quand on remet sa copie, on n'en connaît même pas le dernier mot qui ne nous appartient pas. Vous savez, ce qui survit d'un écrivain, c'est très rarement l'opus, le grand opus auquel il attachait le plus d'importance. C'est un factum pondu en passant. Pour attester de son passage sur Terre, Benjamin Constant comptait sur son Histoire des religions en 3 volumes, et pas du tout sur Adolphe, une petite passade. Et Chateaubriand y comptait sur les Natchez, aujourd'hui introuvables en librairie, et non sur la vie de Rancée. Toute survie, au fond, est un pied de nez. Et il n'y a pas de martingale en la matière, sans quoi il faudrait dire adieu à la glorieuse incertitude du sport. Homer n'aurait plus à se crever les yeux, ni Tartampion à s'épuiser dans une hasardeuse campagne académique. Plus de suspense, tout ça deviendrait vite très ennuyeux. Pour la course à la postérité, cela dit, il serait faux de s'en remettre au hasard. Il y a des interprétations du monde plus transmissibles que d'autres, plus aptes à franchir le mur du temps. Non pas parce qu'elles sont vraies ou mieux fondées, nous verrons que c'est plutôt le contraire, mais parce que ces interprétations, ces philosophies, ces idéologies, elles respectent, consciemment ou non, certains canaux d'exposition, plus conducteurs que d'autres. On pourrait presque, me semble-t-il, graduer les espérances de vie des diverses productions de l'esprit d'après leur conformité à un petit nombre de normes largement validées par la suite des temps. Première norme, première condition, faire attendre. Donner à son propos la forme d'un récit, je veux dire tout simplement raconter une histoire, dramatiser. Ensuite, que cette histoire mette aux prises, avec force péripétie, deux principes antagonistes, un noir et un blanc, un bon et un méchant, dont la lutte et ses retournements vont, pour ainsi dire, faire durer le plaisir. Et enfin, il faut que le dénouement en soit favorable, qu'il y ait relâchement des tensions et récompense finale. Disons, l'amour finalement plus fort que la guerre, la vie plus fort que la mort, le vrai qui triomphe du faux. J'appellerais ça le modèle Harlequin, celui des romans sentimentaux à l'eau de rose. Le modèle Harlequin, c'est d'abord une rencontre, le coup de foudre entre elle et lui, ensuite des obstacles. Elle est déjà mariée, lui doit partir à la guerre, la famille s'oppose au mariage, un cancer se déclare. Et enfin, un happy end. Elle divorce, il revient de la guerre, la famille se laisse convaincre. Le cancer est guéri. Ça, c'est le schéma universel. C'est pas seulement celui des romans Harlequin, c'est celui de la Bible. Révélation, Abraham, épreuve, exil, désert, reniement, bataille et récompense. La terre promise. C'est d'ailleurs aussi le schéma des évangiles. C'est l'histoire du Fils de Dieu. Nativité, passion, résurrection. Disons, en termes filmiques, apparition, tunnel, réapparition finale. C'est au fond le schéma de tout grand récit calorifique et rédempteur. Celui du communisme, celui du nationalisme et celui du racisme. Il faut que la race supérieure triomphe. Autrement dit, il faut un but qui n'est pas à la portée de la main et qui ne s'atteint qu'à travers de longues souffrances. C'est cela qui tient en haleine. Et d'ailleurs, ce fut le génie et la supériorité du christianisme que de donner à son annonce, à son évangile, je vous rappelle que le mot évangile, ça veut dire annonce, la belle annonce, la bonne annonce, que de lui donner donc la forme d'un drame à épisode, d'une partie en suspens, d'une dynamique où chacun a ses chances et où les derniers peuvent devenir les premiers. Pour avoir, disons, préférer la légende au reportage comme Épicure ou préférer l'éthique à l'histoire comme Épictète, l'épicurisme ou le stoïcisme, disons les systèmes rivaux, étaient trop abstraits, trop logiques. Ils n'étaient pas assez haletants. Ils ne créaient pas une attente, ils n'étaient pas compétitifs. Vous savez, on ne lance pas un mouvement de masse, une vague d'espérance mondiale, un souffle mobilisateur à travers toute la Terre, avec la devise de Lucrèce, le poète latin, « Eadem sunt semper omnia », les choses sont toujours les mêmes. C'est assez décourageant. Ça ne donne rien à espérer. Une philosophie qui se contente d'analyser l'état du monde, elle marquera éventuellement l'histoire de la philosophie, mais pas les sensibilités et pas les imaginaires, pas l'histoire des peuples. Pour faire penser en largeur, il convient d'émouvoir en profondeur, et pour faire palpiter, il faut faire espérer. Espérer quoi ? Que demain sera un autre jour, qu'on peut s'en sortir de notre vallée de larmes, qu'il existe un passage, si possible un passage caché ou secret, qu'il existe donc une transition vers un ailleurs, un col à franchir, qu'on proclame soit une entrée dans une nouvelle ère avec Saint Paul, Marx ou Nietzsche, soit une sortie, sortie de l'ignorance, de l'aliénation, de l'exploitation, de la religion. Il faut en tout cas un changement d'état. Imprescriptible est la promesse d'un changement d'état. Demain ne sera pas aujourd'hui. Il faut qu'on puisse aller vers un mieux ou un meilleur, cela va de soi, dût-il être précédé d'un pire, plus ou moins long. Disons Gog et Magog, le dernier Rome, la répression. Dans un bon récit, il y a toujours un mauvais moment à passer. Mais à la fin, il y a un sursum corda, haut les cœurs, ou encore un ça ira. Qu'on ne croit pas que l'accueil fait aux écrivains d'idées puisse être indemne des attentes que nous avons envers les œuvres d'imagination, envers ce qu'on appelle les grands récits religieux ou autres. Le gai désespoir à la Cioran, le tragique à la Clément Rosset, ce sont des articles de luxe à tirage limité. On ne capte pas l'attention du public, autrement dit, on ne pèse pas sur le cours des idées et du monde, sans lui donner à ce public une tâche à faire, des méchants à combattre, et la voie à suivre pour qu'il devienne un jour meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Alors, excusez-moi de descendre du général au particulier, mais je vais prendre un exemple de ce que je viens de dire dans l'actualité immédiate. Dans je dirais, les carrières posthumes de deux grands philosophes contemporains qui m'a été donné pour l'un de croiser, pour l'autre de fréquenter. René Girard d'un côté et François Dagonier de l'autre. Il arrive que les articles nécrologiques tournent à la leçon de choses et incitent de rechef à se demander pourquoi trois colonnes pour l'un et un entrefilet pour l'autre. Pourquoi, dans notre petit obituaire, notre petite nécrologie parisienne, certains décès d'intellectuels émeuvent et montent en une et d'autres passent doucement inaperçus en page 27 du journal du soir. Pourquoi un nom propre brille, prend et marche, tandis qu'un autre reste mat et tout seul dans son coin? Oui, je suis médiologue, donc je m'occupe de la transmission, et un médiologue est un capteur d'écho, un échographe professionnel. Il laisse traîner son sonar dans les amphis et les rédactions, le long des trottoirs et des comptoirs. Il est moins soucieux des émissions que des retransmissions. Il est moins attentif à ce qui s'est hier écrit, proféré ou gravé qu'à ce qui, aujourd'hui, retentit, répercute, rebondit, réverbère. Ce qu'on appelle, dans le journalisme, la reprise, la sacro-sainte reprise. Oui, le re est le royaume du médiologue, et le re est une vaste contrée qui va de la résurrection du Christ à la reproductibilité technique, comme disait Benjamin, qui va du réemploi des matériaux en architecture à la mise en rumeur d'une nouvelle improbable, aboutissant à force de répétition, par exemple, à transformer un paradoxe invraisemblable, la résurrection de Pâques ou le Coran incréé, qui transforme ce paradoxe en un dogme impératif, en une évidence qui va de soi pour des millions de personnes. Alors oui, le hasard a voulu que deux esprits, je dirais, d'envergure, de première classe, nous aient quittés en 2015, à quelques jours de distance, deux philosophes, René Girard et François Dagonier. L'un de l'Atlas apocalyptique, si vous voulez, aux deux sens du mot, qui est à la fois dévoilement d'un grand secret et annonce du grand dénouement, et l'autre, Dagonier, de l'Atlas encyclopédique. Ce sont là deux vieilles familles, hein, deux vieilles familles d'esprit dans l'histoire des idées forces. Le second, Dagonier, a aujourd'hui une poignée, et le premier, René Girard, une foule de disciples, et très au-delà de l'université, puisque Jacques Delors et Claude Bébéard comptent parmi les membres de l'Association pour les recherches mimétiques, créé en l'honneur de René Girard à l'Institut de France en 2005. Oui, l'apocalyptique a eu droit à des hommages officiels et publics. Il a même été mentionné sur TF1 aux 20h, vous vous rendez compte. Alors que l'encyclopédique n'a eu droit qu'à l'hommage d'une quarantaine de collègues réunis en tapinois dans une salle en Sorbonne, auquel d'ailleurs nul quotidien ou radio n'a fait écho. Alors pourquoi d'un côté on a une échoppe et de l'autre un grand magasin? Entendons-nous. Vous pouvez avoir d'autres exemples en tête, mais il est normal que la grande presse célèbre, ne citons pas de nom, un exégète de l'actualité politique. Elle ne fait alors que rendre l'appareil à l'un des siens, une figure politico-médiatique, un nouveau philosophe qui l'a accompagné pas à pas, mais sans créer de concept au long cours ni d'école de pensée, sans une œuvre consistante, sans un sillage universitaire. Tout parallèle ici serait désobligeant. Élevons le débat, si vous voulez. Avec Girard et Dagonier, nous avons deux morts, armes égales si j'ose dire, deux œuvres, pareillement dense et novatrice, située aux deux pôles opposés de l'arc philosophique, disons un peu Corneille et Racine. Hein. L'antithèse entre le prophète et le prof, le spiritualiste Girard, le matérialiste Dagonier, le prédicateur et l'enquêteur, l'étude herméneutique de pointe et l'étude des techniques de pointe, je dirais le plongeur de fond, Girard, le déplisseur des surfaces, Dagonier, l'inspecteur des textes et le chirurgien des choses. Oui, cette antithèse, je crois qu'elle peut avoir un effet de loupe sur les normes de réception traditionnellement en usage pour rentrer dans l'histoire des idées. Alors, Dagonier étant beaucoup moins connu que René Girard, permettez-moi de le resituer dans le paysage intellectuel français. Vous savez que, depuis un siècle, deux mouvances ou deux camps se partagent notre ghetto universitaire, dont l'assigné à résidence ne sort que par une militance politique affichée. À gauche est très tardive, dans le cas de Bourdieu, à droite est très précoce, dans le cas de Raymond Aron. Oui, en dehors de toute considération politique, vous avez d'un côté les tenants du ressenti, de la conscience et du sujet, et de l'autre, les tenants du concept et du logico-mathématique, disons les phénoménologues et les épistémologues. Alors évidemment, c'est une ligne de partage des eaux un peu sommaire, et il est venu un challenger après-guerre compliquer tout cela en tentant de les coiffer au poteau l'une et l'autre, disons Heidegger. L'ontologie à la Heidegger, la méditation de l'être et l'imprécation antitechnique. Et voilà patatras qu'un médecin devenu philosophe, François Dagonier, prend tout ce grand monde à revers avec une méditation, un examen très informé, non du sujet, mais de l'objet, non du concept, mais des outillages, non de la genèse, mais des morphogenèses. Il fallait du culot pour échapper à ce qu'on appelle le « linguistic turn », le tournant linguistique, autant qu'à la prédication éthique. Il fallait du culot pour mettre la main dans le cambouis, pour placer l'objet au cœur de la relation humaine et aborder l'intériorité par le poil téflon, le tergal et le polyester, pour montrer que la matière court plus vite que l'esprit. Pour frapper d'un signe plus et non d'un signe moins, le contreplaqué, l'aggloméré, tout en rendant leur dû aux chênes et aux peupliers. C'était pour le moins une percée un peu saugrenue, et quand Guilhem, l'autre héritier de Gaston Bachelard, inventait en Dagonier, je cite, « un demi-hérétique que son originalité ne saurait condamner à la marginalité ». Certes, on se déconsidère toujours en traitant d'objets déconsidérés. La philosophie est là, disons, certains ustensiles dûment accrédités, c'est l'horloge, le miroir, le verre poli. Avec ça, vous faites un cours de philo. Mais elle n'a pas le bouton, elle n'a pas l'anneau, elle n'a pas l'agrafe. Elle n'a pas les verres et les gobelets, elle n'a pas les chaises et les tables, elle n'a pas les cols et les consoles, les boîtes et les paniers. Et c'est tout ça dont Dagonier s'est occupé. Cela, ça peut faire rêver un poète comme Francis Ponge, mais pas un penseur. Jouer la surface contre la profondeur, dans le monde intellectuel, c'est s'exclure du champ. Alors, les alliés pour ce philosophe singulier, ils étaient lointains, ils étaient d'un autre bord. C'était, disons, des artistes comme Dubuffet, comme Vasarely, comme Tapiès, comme Fautrier, Viala, Ubac. Mais enfin, ce n'étaient que des artistes, et les artistes ne font pas autorité dans les amphis. Ils font autorité dans les salles de vente, mais pas à la Sorbonne. Autrement dit, la révolution copernicienne dont je vous parle, à savoir le sujet tournant autour de l'objet et non l'inverse, ça n'a pas défrayé la chronique. On n'en a pas beaucoup parlé. Pourquoi ? Eh bien, on ne gagne guère en prestige quand on médite sur le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne. Ce catalogue, il ne s'oppose à rien ni à personne. Saint Paul s'oppose au fils de perdition, et les épîtres de Jean s'opposent à l'Antéchrist. Et l'adversaire du Messie a beaucoup fait pour le Messie. Faire sien en bon manichéen le discours d'un grand combat céleste, c'est mettre ses pas dans ceux d'une vulgate à toute épreuve, la vulgate judéo-chrétienne. Et c'est un combat qui se poursuit de nos jours sous d'autres formes, parce qu'il est captivant. Qui va gagner ? C'est un suspense. Mais avec Dagonet, il n'y a pas de suspense, parce qu'il a déserté ce champ manichéen. Il récuse tout dualisme. Il récuse notamment l'affrontement de l'esprit et de la matière, le fond et la forme, l'invisible et le visible, l'âme et le corps, la profondeur et la surface. Enfin, vous voyez, toutes ces antithèses un peu bateaux avec lesquelles on peut faire, évidemment, n'importe quel cours de philo. Lui, au contraire, il réconcilie Dieu et le diable, le bien et le mal. Et il montre comment ses ennemis sont des alliés, en fond, qu'il s'ignore. Alors là, il n'y a pas de lutte finale en perspective. Il n'y a pas de noir et blanc. Inutile de battre tambour. On est dans toutes les nuances de gris. C'est décourageant au possible. On ne combat un grand récit qu'en en produisant un autre. Pas de grand récit, pas de grande écoute.
Thank you.
L'enceinte acoustique de qui a découvert l'alpha et l'oméga de la condition humaine ne saurait être que la planète Terre. Et là, je parle déjà de René Girard. Autant le travail d'un chercheur, lui, résonne dans l'enceinte du monde savant, d'un public spécialisé, autant le découvreur des choses cachées depuis la fondation du monde, il aura de l'écoute. Pour le chercheur, terre à terre, il n'y a pas de coryphée autre, il n'y a pas de porte-voix autre que professionnel. Vous savez, on est toujours aimé par ceux qu'on aime. Marx fut aimé par les prolétaires, ou du moins par leurs représentants. Darwin fut aimé par les amis des animaux et de la nature. Freud fut aimé par les névrosés et leurs soignants. Et Girard, il est aimé par les chrétiens parce qu'il vérifie la vérité chrétienne et les chrétiens ont bien raison de relayer ses affirmations. Qui fait de l'Évangile le texte le plus subversif de l'histoire de l'humanité, scientifique sans le savoir, offre à l'ère judéo-chrétienne, je dirais au fidèle ordinaire, incertain de sa foi, il lui offre un cumul de mandats assez remarquable. Parce que ce lecteur de René Girard, il sera à la fois orthodoxe et anticonformiste, old school et scandaleux, prudent et téméraire. Il aura Science et Vie, plus Le Figaro, plus Libé. Ça, c'est un triplé qui emporte la mise. En d'autres termes, un bon renseignement n'aura jamais l'écho d'une bonne nouvelle. Ni un simple énoncé objectif, celui de ce qu'on appelle un message fort, surtout s'il nous dévoile un grand secret, caché depuis l'origine de toute chose. Et il est bon de parler d'origine, car nous entendons, nous croyons que le dernier mot est toujours dans le premier, la fin dans l'origine, et le terminus dans l'incipit, dans le commencement. C'est à quoi ça sert le mythe des origines. Hein. Donc, je dirais qu'il faut distinguer entre l'énoncé descriptif ou scientifique et le message thérapeutique. Le premier, l'énoncé, vise à une meilleure prise intellectuelle sur l'existant. Le second, le message, il vise à soulager notre mal-être, notre insatisfaction. Et nous sommes tous des désemparés de naissance. Nous sommes tous incurablement las de notre condition présente. Et c'est pourquoi nous n'aimons pas les gâteaux secs. Dagonier n'a pas beurré les siens. Son offre ne répondait pas à notre soif de douceur, à notre besoin d'en finir avec la violence, avec la guerre de tous contre tous, avec l'infernale et morne production de boucs émissaires. Et comment en finir avec tout cela? Eh bien, en embrassant le prince de la paix, Jésus-Christ, et en sachant lire enfin comme il faut notre testament de famille, qui coupe l'histoire de l'humanité en deux, avant et après la crucifixion. Vous qui avez soif, venez vers l'eau, dit Isaïe, le prophète. Vous qui avez soif, venez vers l'eau, c'est un genre d'appel qui ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd, parce qu'on a tous soif. Et qui tombe encore moins dans l'oreille d'un sourd, qu'on révolutionne la science, que le déchiffreur en possession du code peut révolutionner, va révolutionner le monde entier. Bref, se convertir au Christ ou périr. Et cela au nom d'un nouveau savoir qui a valeur de salut, c'est une bouée lancée in extremis aux malheureux, aux naufragés que nous sommes tous, vous et moi. Mais cette annonce la conversion au vrai christianisme, elle ne fera sans doute pas accourir les Chinois, les Indiens ou les Arabo-musulmans. Chaque culture se juge belle en son miroir et invariablement plus belle que les voisines. Ce n'est pas le bon sens. Malgré ce qu'en a dit Descartes, ce n'est pas le bon sens, la chose du monde la mieux partagée. C'est l'ethnocentrisme. Et il ne laisse sur cette planète aucune communauté au bord de la route. Si vous dites l'islam est la solution, au Caire ou à Istanbul, vous êtes sûr d'avoir une excellente écoute. Si vous dites la solution est Confucius à Pékin, la solution est Shiva à New Delhi, la solution est Bouddha à Colombo, la solution est Calvin à Genève, je peux vous garantir que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Ce sera réverbéré, répercuté et commenté. Que Jésus soit la solution, ma foi, c'est une hypothèse que le vieux monde des clochers, des croix et des calvaires peut aisément partager. Et surtout si, modernité oblige, vous montrez que Jésus ou les évangiles sont labellisés scientifiques. Montrer que nos livres saints étaient des livres de science, jusqu'à faire du religieux la clé des sciences humaines, ça rend service parce que ça met fin à l'éternel dilemme, à l'embarrassant dilemme entre la foi et le savoir. Ça, depuis Galilée, ça nous perturbe. Et choisir entre toutes les religions d'Occident le catholicisme, non seulement comme la vera religio veridei, c'est-à-dire comme la vraie religion du vrai Dieu, mais comme le premier et ultime abri de la vérité des hommes, comme la seule vérité susceptible de bloquer la montée aux extrêmes, suscitée par la convergence des désirs sur un même objet, c'est plus que tenter une OPA de la théologie dogmatique sur l'anthropologie vulgaire. C'est mieux qu'une énième reprise de la misère de l'homme sans Dieu. Ça, depuis Pascal, on connaissait. C'est redonner une fraîcheur d'eau vive au courant millénaire du gnosticisme. Ce qu'on appelle ainsi, c'est proposer un savoir qui a valeur de salut. Je ne crois pas, je sais, et mon savoir à moi, c'est votre salut à vous. Que le guidage moral des populations mondiales, rappelez-vous que le catholique est universel, que le guidage moral des peuples du monde offre plus de débouchés qu'une analyse comparée des verres cristallins, opalins, sulfurés et mixtes, vous allez me dire que ce n'est pas une nouvelle. Oui, mais dans ce cas particulier, compte tenu des handicaps de mon vieux maître Dagonier, on peut enrichir le propos par quelques observations pratiques. Pratiques et qui vont vous sembler bien prosaïques, mais importantes. La géolocalisation en premier lieu. Pour la propagation électromagnétique de vos idées qui sont évidemment bouleversante, nouvelle, formidable. Eh bien, mieux vaut vivre et décéder à Chicago ou à Stanford aux États-Unis d'Amérique qu'à Lyon et à Vallon dans l'Yonne. C'est là où est mort Dagonier. Dagonier qui ne parlait pas l'anglais et qui n'est pas traduit d'ailleurs dans la koiné de l'époque, dans le globish, hormis peut-être un article ou deux sur l'art contemporain. Dagonier, et je vous conseille de ne pas faire comme lui, vous qui êtes un producteur d'idées, il ne s'est jamais rendu aux États-Unis. Les États-Unis qui sont le hub central, n'est-ce pas ? Le château d'eau, le centre de redistribution, le château d'eau qui alimente tous les bassins d'audience en contrebas sur les 5 continents. Si vous voulez vous faire écouter à Tokyo, à Kuala Lumpur ou même à Moscou, commencez par aller faire des conférences dans une université américaine. Le malheureux Dagonier, il avait une phobie physique de l'avion, ce qui est très fâcheux pour l'export. La réception américaine d'un indigène exogène exige qu'on aille sur place récolter le nilobstate impérial, sans quoi on restera de consommation provinciale. C'est une facétie connue, hein. On fait régulièrement la théorie de ce qu'on est hors d'état de pratiquer. Aussi fallait-il un sédentaire résolu comme Dagonier pour exalter le transport et la circulation. Curieux de tout, cosmopolite, industrialiste et technophile, mais personnellement territorial, unilingue et casanier. À quoi s'ajoute dans son cas quelque chose d'encore plus rédhibitoire à l'âge libertaire où le marginal est au centre et où le déviant est le vrai orthodoxe, l'occupation fatale des sommets de l'institution universitaire, puisque notre homme a présidé le jury d'agrégation, les commissions du CHU, les organes de recrutement, etc. Alors un esprit non académique dans la plus académique des positions, disons un guérillero au quartier général, un corsaire nommé grand amiral. Il y avait vraiment là de quoi brouiller l'image et susciter une certaine indifférence, voire une antipathie. Disons, là je vous ai parlé d'un porte-à-faux publicitaire propre à un individu. Et je dirais en tant que médiologue que je peux reprocher à ce profil intellectuel, 3 manquements aux règles d'une bonne transmission, 3 manquements peu propices à l'inscription dans les annales idéologiques contemporaines. D'abord, premier point, un défaut de profilage nécessaire aux besoins de transport. Vous savez, il n'y a pas la carrosserie d'un côté et le moteur de l'autre. Tout en exaltant dans ses écrits le pouvoir amplificateur de l'abrégé et multiplicateur du blason, en sachant fort bien, comme dit le chinois, que le peu obtient et le nombreux égare, notre abondant ami Dagonier n'a pas étiqueté ses bagages. Or, qui veut voyager loin allège sa monture. Un nom propre, un badge. Lyotard, le postmoderne. Derrida, la déconstruction. Foucault, l'enfermement. Morin, la complexité. Lévi-Strauss, la structure. Baudrillard, le simulacre. Deleuze et Guattari, le désir. Habermas, la communication, etc., etc. À chaque nom, un logo. Pas plus de 20 signes. Je pense donc je suis. Le retour éternel. Le meilleur des mondes possibles. Écraser l'infâme. Enfin, vous voyez, là je reprends des formules connues. Dans le cas de Girard, le désir mimétique. Simplifier le complexe, c'est forger une marque via la technique du compactage. Le raccourci est un art difficile pour qui aime à buissonner et à foisonner, mais sans réduction, pas d'irradiation. Givariser les têtes permet des combats de titans entre têtes d'affiche. Camus l'absurde contre Sartre l'engagement. Il faut une griffe, un sigle, un label, genre « Medium is message » pour McLuhan. Ce sont l'équivalent de l'emblème qui, dans l'ordre politique, permet le passage du parti au mouvement. Hein. À un moment donné, il faut une croix de Lorraine. Ou bien, à l'autre bout, si j'ose dire, une croix gammée. Un faucille et un marteau. Ou les flèches, chez les jeunesses socialistes des années 30. Il faut apprendre du génie publicitaire des grandes religions. Elles ont su faire passer leur théologie compliquée par le trou d'aiguille d'une cellule de simplification avec un visuel à la clé. Le poisson, la croix, le pied chez les bouddhistes, le croissant chez les musulmans. Et d'ailleurs, vous savez, des nations fort cultivées ont su se contracter, se résumer dans des symboles d'animaux assez bêtes. Le coq, le lion, l'ours, l'aigle. Quand vous dites l'ours, vous pensez à l'URSS. Le lion, c'est l'Angleterre, l'aigle, c'est les États-Unis, et le coq, malheureusement, c'est la France. Pas très brillant. Enfin, les doctrines appelées à briller comme un phare dans notre supermarché où les étiquettes tournent à toute vitesse doivent s'attacher au derrière un sémaphore, un clignotant. Car l'histoire publique des idées, elle aussi, avance par le mauvais côté, à savoir par le grelot. Il faut que ça sonne. Autrement dit, le simplisme est une augmentation et non pas une diminution capitis. Car les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont toujours été des choses simples. Voyez les évangiles et voyez le Petit Prince. Oublions le petit livre rouge, si vous voulez. De même, convient-il, pour viabiliser le message, de taper sans cesse sur le même clou. Le martèlement prophétique exige de se renouveler le moins possible. Conclusion, on ne se répète jamais assez. André Gide, là-dessus, a eu un mot intéressant. Il s'était donné un but quand il était très jeune. Créer un poncif, c'est le génie. Je dois créer un poncif, a dit André Gide. Il n'avait pas tort parce que tout a déjà été dit, vous savez. Mais comme personne n'écoute, il faut toujours le reformuler pour que ça entre. Voltaire, par exemple, il a créé un poncif avec son écrasé l'infâme et 10 autres refrains. Diderot, lui, il a raté le coche. No logo, ni blason. Dagognet et lui, parce que Dagognet, comme Diderot, sont natifs de Langres. Dagognet et Diderot, les deux fils de cette cité-forteresse, ondoyants et profus jusqu'à l'insaisissable, ils ont eu le bonheur, mais aussi le tort, de sauter d'un sujet à l'autre en oubliant de récapituler. Il faut une anse à un panier, un abstract à un article et un ramasse-tout à une philosophie. Il faut nous mâcher le travail. Nos cerveaux ne sont pas faits pour emmagasiner plusieurs idées à la fois, surtout si elles semblent contradictoires. Vous et moi, on est vite débordés et puis on n'a pas le temps. Il faut un passe-partout. Et c'est ce qui satisfait à la loi du moindre effort, cette loi qui préside au progrès des techniques comme des réputations. Avec la violence mimétique en main, pas de serrure qui résiste. Deuxième reproche, posthume, à mon ami et maître Dagognet. Un défaut de montée aux extrêmes, un manque de stridence ou d'excès. L'excès en tout est un défaut, oui, sauf dans le labeur de la transmission. L'outrance, elle frappe l'attention. Elle vous prend par la manche ou par le col. Et c'est en outrepassant la prudence scientifique et même la simple observation des faits qu'une thèse, pour loufoque qu'elle soit, peut faire son trou dans les esprits. Même si l'hétéronomie du désir et l'aliénant de l'imitation mutuelle ont été 100 fois pointés par Pascal, Tocqueville, Nietzsche et surtout Gabriel Tarde, qui en fit contre Durkheim son cheval de bataille, leur redécouverte contemporaine, dans le concret des intrigues littéraires, donnait du corps et une saveur rafraîchissante à cette constante psychologique. Et c'est quand cette très pertinente analyse du rapport amoureux, toujours médiatisé par un tiers, moyennant une judicieuse comparaison entre mensonges romantiques et vérité romanesque, un ouvrage digne en tout point d'éloge, c'était quand cette analyse a été élevée par René Girard au statut d'ouvre-boîte universelle, de solution de l'énigme enfin trouvée. C'est quand la mise à mort du bouc émissaire chargé d'expulser la violence collective a été mise en facteur commun, je cite, de toutes les institutions politiques et culturelles depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours. Fin de citation. Vous rendez compte de tout ce qui s'est passé dans le monde depuis l'origine du monde. C'est quand cette hypothèse, que n'étaye presque aucun exemple tiré de l'histoire réelle, et que dément d'ailleurs toute approche objective de la notion infiniment prolifique et contrastée de sacrifice. Le sacrifice, ce qui sous la plume de René Girard est devenu le fondement de toute société, de toute police, depuis le commencement de l'humanité. Bref, c'est quand un sagace critique littéraire, d'une qualité exceptionnelle, put être campé en Darwin des sciences humaines, avec exégète, disciple et fidèle, qu'il s'est imposé à l'attention du public intellectuel et même du grand public. Autrement dit, sur le marché très saturé et compétitif des grilles de lecture et des clés d'explication, d'autant plus plausibles qu'à tout indécidable, un trousseau à clés multiples dont chacune peut ouvrir une porte mais pas l'autre, elle aura du mal à passer de main en main. Sectoriel est toujours remaniable et le savoir donc toujours un peu frustrant. Global est la promesse et surtout définitive, la grande promesse, non sujette à rectificatif ou révision, donc beaucoup plus rassurante. Assurée. Vous qui écrivez, vous qui lancez des idées sur la place publique, soyez apodictique et paroxystique. Soyez totalisant et fulminant. Donnez le bras au prophète Jérémie et la réplique à Satan. Tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable, constatait Valérie. Un prosateur qui a cher payé son incroyable rose des vents, mais racheté, il est vrai, par la netteté définitive et sculpturale du cimetière marin. En somme, moins ce que vous dites est validable, plus cela sera serviable. Et l'on ne peut pas récuser Nietzsche sur ce point, les jugements les plus faux sont pour nous les plus indispensables. Traduction marketing. Ce qu'il y a de moins vendable dans la foire sur la place, c'est la vérité, même approchée. Car une vérité est en général une mauvaise nouvelle. Les fausses bonnes, délivrance, rédemption, salut, elles ont un boulevard devant elles. À bon entendeur, salut. Troisième reproche. Un défaut d'adressage en direction d'une catégorie sociale déterminée, une lignée, une cible actuelle ou potentielle, susceptible d'en tirer profit. Vous, cher ami, qui avez hier lancé votre bouteille à la mer ou qui le ferez demain, posez-vous ces questions avant toute chose. À qui vais-je faire plaisir en disant ce que je dis ? Qui aura intérêt demain à le redire? Qui vais-je pouvoir augmenter par mes propos et mes propositions, pourvu qu'on saisisse la perche que je tends? Quel bon élève pourra se grandir demain en citant mon nom dans sa copie à Sciences Po? Il fallait citer Valéry en 1950, Raymond Aron en 1970 et René Char en l'an 2000. Vous me direz que ce ne sont pas là des soucis pour un travailleur de la preuve qui travaille gratis pro deo. Mais si vous n'en tenez aucun compte, mettez une sourdine à votre trompette. L'homme est l'être des lendemains et on lui rend service quand on peint une fenêtre sur son mur. C'est une forme de générosité. Oui, comme il y a des aides à la personne, il y a des aides au tonus général. Le mirage en fait partie. Mais au fond, n'est-il pas sain, en dernière analyse, qu'une civilisation retienne et transmette de préférence aux générations futures ce qui peut apaiser ses doutes et conforter ses fondamentaux, ce qui lui permet de persister dans son être? Fernand Braudel a écrit qu'une civilisation répugne généralement à adopter un bien culturel qui met en question une de ses structures profondes. Ce refus d'emprunter, ces hostilités secrètes, écrit-il, conduisent toujours au cœur d'une civilisation. Fin de citation. Alors, ne jouez pas à l'esprit fort. Le cœur du collectif, de votre communauté, a ses raisons que la raison individuelle ne connaît pas. Et j'ai sans doute eu tort de mettre en balance, tête bêche, deux grandes figures qui n'ont eu ni même fonction, ni même vocation. Il n'y a pas eu une guerre des ondes entre François Dagonia et René Girard, parce que les deux n'émettent pas sur les mêmes longueurs, ni pour une même écoute, ni pour une même audience. L'astrophysique, ça ne périme pas l'astrologie. Et la médecine appareillée, ça ne périme pas l'homéopathie. Les deux peuvent fort bien se côtoyer. Et il n'est pas exclu, ajouterais-je, qu'un univers désenchanté par la science ait encore plus besoin d'enchanteurs que d'informateurs pour l'aider à tenir le coup. Autrement dit, l'un n'empêche pas l'autre. Et je dirais que Dagonier et René Girard étaient à armes inégales. Évidemment, les délais ne sont pas les mêmes, dans un cas comme dans l'autre. L'acte de connaissance, il est souvent prématuré, mais il peut compter sur une reconnaissance en différé. La parole d'encouragement, elle, la parole qui enthousiasme, la parole qui convoque, elle a l'avantage de payer cash, si j'ose dire, car elle répond à une demande perpétuellement déçue, et donc chaque jour en quête de réassurance. Mais comme la pierre philosophale est assez volatile, et comme les planches de salut sont sujettes au naufrage, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de franchir la barre du temps. Oui, répondre à la demande, c'est peut-être au fond une fausse bonne idée, même si elle apparaît aujourd'hui plus rentable que jamais. Je vous remercie.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.